Chapitre 31. Julien Sidroux avait joint deux autres fichiers. L'un contenait l'historique du navigateur de Doty et l'autre une dizaine d'adresses extraites de cet historique et qui concernaient toutes ces fameuses expériences de mort imminente. Lucie cliqua sur les premiers liens de la liste. Des compilations de témoignages, des redirections vers pléthore de livres sur le sujet, la vie après la mort, la vie après la vie, et si cela vous arrivait, une vraie manne pour quiconque voulait se faire du fric. Des sensations souvent identiques, résuma Franck qui avait lu quelques articles. Des personnes qui reviennent d'une mort clinique après quelques secondes ou minutes de tracé plein. Elles subissent un arrêt cardiaque, un arrêt des fonctions respiratoires, mais leur cerveau reste vivant. Condition indispensable pour que le retour soit possible. Les innombrables récits se recoupent, quel que soit l'âge et la culture. Le tunnel, la vision d'une lumière chaleureuse, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité. Parfois, des proches disparus sont là pour les accueillir. Quelques sites, par ailleurs, évoquent bien les expériences négatives, disent qu'elles existent, mais sans aborder réellement la question. Ce n'est sans doute pas assez référencé. Lucie tomba sur un long papier publié récemment dans le très sérieux magazine Science et traduit en français. Celui-ci dressait un état des lieux complet des recherches autour des EMI. L'idée était de déterminer une bonne fois pour toutes si la conscience survivait à la mort physique du corps. Côté scientifique, on avait ces dernières années déployé la grosse artillerie à grand renfort de scanners et d'électrodes. Grâce à des essais sur des rats, on était parvenu à expliquer ce phénomène par une réaction biochimique du cerveau qui, soudain privé d'oxygène, déclenchait une activité dans le cortex cérébral compatible avec un flash d'expérience mentale. La production d'un tas d'hormones destinées à atténuer la douleur et la peur rationalisait quant à elle les sensations liées à ce tunnel chaleureux. Pour les blouses blanches, tout prenait enfin un sens. Pourtant, une étude menée dans des hôpitaux de plusieurs pays, intitulée AWARE, et dirigée par un professeur en médecine britannique, était en train de tout ébranler. Des chirurgiens impliqués dans le projet avaient en effet pu certifier que certains patients, victimes d'un arrêt cardiaque durant une anesthésie profonde, par exemple, avaient réussi après coup à décrire avec précision la position des 6 personnes présentes autour de leur corps au moment de la réanimation. Or, leurs yeux étaient bien sûr clos. Mais de surcroît, le cerveau ne montrait aucune activité consciente à cause des anesthésiques. Un autre témoignage était bluffant. Celui d'un homme de 54 ans, Jack, qui, à son réveil, après un arrêt cardiaque de 4 minutes, avait commencé à pleurer. Il avait raconté être revenu à la vie à la demande de son frère, aux portes de ce fameux tunnel blanc. Ce dernier était décédé à 400 km de là d'un AVC à une pompe à essence, alors même que Jack subissait son opération. Lucie pensait à ses jumelles, parties 10 ans plus tôt. Et si elles étaient là, quelque part? Et si elles l'attendaient, de l'autre côté, pour la guider quand l'heure aurait sonné? Franck dut percevoir son émotion. Il la savait sensible à ce genre de sujet. Il lui caressa le dos de la main et la fixa avec bienveillance.
Ça va,
lui sourit-elle avec une pointe dans le cœur.
De vieux souvenirs qui remontent.
Clara et Juliette. Elle acquiesça en silence. Même si elle se voulait rassurante, Franck se colla contre elle un instant, réconfortant. Puis ils poursuivirent leurs investigations. Le dernier site qu'avait visité Doty était français, et cette fois entièrement consacré aux EMI négatives. Un titre indiquait « Ceux qui ont vu l'enfer ». En encart, la photo du propriétaire de la page et une légende, Éric Launay, psychothérapeute. Ce Launay parlait d'expériences négatives, inversées ou infernales, qui ne toucheraient qu'un infime pourcentage des individus ayant vécu une EMI. Ils étaient donc vraiment peu nombreux au final. Les témoignages évoquaient des odeurs pestilentielles, des rires moqueurs, des flammes immenses capables d'embraser le ciel. De retour chez elle, après son long séjour à l'hôpital, une femme racontait avoir vu un soir une araignée géante sur le visage de son bébé. Elle avait alors frappé et blessé l'enfant, pensant l'animal réel. Un exemple parmi tant d'autres qui confirmait que ces gens-là ressortaient imprégnés jusqu'à la moelle de leur voyage. Le psychothérapeute citait également des passages de la Bible. Selon lui, ces individus avaient vu le purgatoire ou l'enfer, ce lieu où l'on ressent avec effroi l'absence de Dieu, écrivait-il. Lucie cliqua ensuite sur un lien et tomba sur des peintures de grands artistes qui représentaient l'enfer. Rubens, Bosch, Wyss, ainsi que sur des dessins d'amateurs, mais non moins effrayants. Vision horrifique de l'au-delà, était-il noté en haut de la page. Elle pointa soudain une des images.
Philippe Dubois avait dessiné ce démon-là, Franck.
Tu en es certaine ?
Oui.
Charcot lui prit la souris des mains. Il éplucha les autres onglets du site pour se rendre compte que ce Launay cherchait à recueillir des témoignages d'EMI négatives afin de les étudier. Tout un paragraphe indiquait qu'il invitait les sujets intéressés à se rapprocher de lui. Sur la page figurait l'adresse de son cabinet parisien et un formulaire pour le contacter. Lucie se recula dans son siège, satisfaite, et fixa son homme.
« Je m'en charge. »